dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Il est 11h01, on parle du Canadien avec Simon Snake Boisvert tous les mercredis, son podcast Processus avec Mathias Brunet qui sort à la commission athlétique tous les mardis. Comment ça va, Snake?
Ça va bien, toi, Tony?
Ah, pas pire. 13 lancés, Snake, 13.
C'est pas beaucoup.
Mais là, tu dis?
Non. Mais tu peux pas dire quand même hier que le Canadien a mal joué. Là.
Oh non, ils ont joué comme l'Union soviétique hier. Ils étaient partout.
Non, mais regarde, ils se sont rendus en prolongation. Moi, je vois une tendance depuis le début de la saison qui est assez évidente, je pense, pour tout le monde. Quand le Canadien affronte une équipe qui n'est pas très forte, ils vont soit gagner ou ils vont être vraiment là, proches de le faire. Ils vont être dans la game. Et lorsqu'ils affrontent une équipe de calibre supérieur, il y a des chances qu'ils
mangent se font laver.
Bonne raclée, c'est ça.
Stu Cowan, mon chum avec la Gazette, qui a écrit « La reconstruction, la première année, après 21 matchs,
ouais.
Le Canadien, 23 points.
Ouais.
La deuxième année, après le même nombre de matchs, 20 points.
Mm-hmm.
Cette année, après le même nombre de matchs, 17 points. Donc, on nous dit depuis 3 ans maintenant que tous les jours, le développement, les joueurs sont en train de s'améliorer, qu'il y a juste de nouveaux concepts. Les gars s'améliorent. Quand tu t'améliores au niveau individuel, tu es supposé de t'améliorer au niveau du groupe aussi. Tu es supposé d'aller chercher plus de points, plus de victoires. Okay. Donc, c'est 3 ans, c'est 21 matchs, puis ils ont 6 points moins, dont 3 victoires de moins après 21 matchs, qui est 1 victoire à chaque 7 matchs, en année 3 qu'ils ont eu en année 1. Pas normal.
Oui et non.
OK.
Pourquoi? Lorsque tu entames une reconstruction, la base de ta reconstruction, évidemment, ce sont les choix de repêchage très élevés. C'est vraiment la base, là. Ensuite, il faut faire d'autres choses là, pour que l'équipe passe à un autre niveau. Mais à la base, c'est ça. En 2022, ils sont allés chercher Slafkovský. En 2023, Randbacher. Puis en 2024, Demidov.
Mm-hmm.
Demidov et Randbacher ne sont pas là. Slafkovský, on ne peut pas dire cette année qu'il joue très bien. Alors, tu as un élément de réponse ici. Parce que le reste de l'équipe, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'améliorer par Kent Hughes. Puis ça, c'est de façon volontaire. Enfin, je pense. Alors, c'est normal que la reconstruction, elle ne décolle pas autant que, mettons, Pittsburgh en 2006, quand Malkin est arrivé, Crosby, deuxième saison, puis les deux ont vraiment fait décoller l'équipe, qui fait que 2 ans plus tard, ils ont fait les séries. Mais ça, c'est très, très rare que ça arrive, que tu vas repêcher 2 ans de suite un gars comme Crosby puis un gars comme Malkin. Alors, c'est pour ça que le Canadien, c'est quelque chose qui va prendre 5, 6, 7 ans avant vraiment de décoller. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'est un peu... Il y a des gens qui commencent à être très impatients. Il y a des gens qui ne l'écoutent plus. Tu sais, je parle pas mal à des fans, puis c'est ça qu'on me dit. Mais moi, je leur dis, c'est des gros sacrifices que vous faites en ce moment. Mais lorsque tous ces jeunes joueurs-là vont être là, puis vont être à leur apogée, ils seront peut-être pas tous des superstars, mais il va y en avoir suffisamment pour que le Canadien devienne une très bonne équipe. Mon opinion.
OK. Hier, en voyant qu'on parle de jeunes avec toi, tu es un expert concernant les jeunes joueurs. L'année 2022, Slafkovský premier, Cooley troisième.
Mm.
C'est un match, c'est pas la fin du monde, là. C'est un match. Mais je regarde la progression de Slafkovský, à quelle vitesse ça s'en va, puis je regarde la progression de Cooley. Encore une fois, c'est juste un match, mais si je regarde le match hier soir, là, hier, là, Logan Cooley, il était sur le deuxième trio de Utah avec Genter à sa droite puis McBain à sa gauche. Puis Slafkovský était sur le quatrième trio des Canadiens. Puis hier, Logan Cooley avait l'air d'un top 6. Puis Slafkovský avait l'air d'un bottom 6.
Ouais.
C'est quoi le terme pour bottom en français?
Ben, en fait, c'est joueur de soutien.
Il avait l'air d'un joueur de soutien hier. Puis Cooley avait l'air d'un joueur là, des deux premiers trios.
Oui.
Dis-moi pas que c'est vrai, c'est pas vrai. Là. As-tu vu Cooley, comment il était à l'aise sur la patinoire? Oui. Comment il jouait avec un calme? Oui. Qu'est-ce qu'il nous a montré comme fabricant jeu? La passe qu'il a faite sur le but de McBain? Il était excellent, Logan Cooley, hier. Puis Juraj Slafkovský avait l'air d'un plombier sur le quatrième trio. Pas de confiance, démoli.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce qui se passe dans le développement d'un joueur comme ça, bon, Cooley, lui, il a fait un an de plus dans la NCAA avant d'arriver à Arizona l'année passée. Et c'est sûr que depuis deux... Ben, l'année passée, je pense que Slafkovský, en deuxième moitié de saison, a été meilleur que Cooley. Mais le reste du temps, là, puis surtout cette année, de ce que j'ai vu, Cooley est nettement supérieur et il a l'air à être passé à une autre étape dans sa carrière, ce que Slafkovský n'a pas fait. Cependant, puis ça, je ne sais pas, là, c'est une règle générale. Tu sais, Tony, les plus petits joueurs souvent vont avoir du succès plus rapidement que les gros joueurs. OK, on parle de deux gars qui ont le même âge, mais Cooley, c'est un gars qui est plus petit, donc il est plus agile, ses habiletés sont plus faciles à développer rapidement, alors que les gros joueurs, ça prend plus de temps. Maintenant, est-ce que Cooley, en bout de ligne, dans 5-10 ans, va avoir été meilleur que Slafkovský? Écoute, c'est possible. C'est très possible. L'important, c'est que Slafkovský soit bon. T'sais, même s'il est moins bon que Cooley, au moins, il faut qu'il soit bon. Puis cette année, Slafkovský, en tout cas, c'est décevant, là, honnêtement.
Non, mais t'sais, quelqu'un vient de d'écrire quelque chose sur YouTube qui est un commentaire, qui est un commentaire exact, tu sais. Le Canadien repêche pour le long terme. Tout le monde repêche pour le long terme. On verra dans 2-3 ans. Sauf que le Canadien a repêché un gars qui faisait 6 pieds 3 et demi, 235 livres. Puis Utah, là, ils ont repêché un gars qui ne fait pas 6 pieds 3 et demi, puis il ne fait pas 235 livres. Slafkovský était supposé d'être plus près puis avoir un bien meilleur début de carrière que Cooley à cause de son physique, tout ça. Et quand Slafkovský a commencé dans la Ligue nationale à l'âge de 18 ans, tout le monde a dit « Ah, Slafkovský est meilleur, vois-tu. » Et là, comme tu dis, là, moi, je regarde Cooley. Là. Moi, je suis confiant pour dire que Logan Cooley va être minimum un deuxième centre pendant 10 ans dans la Ligue nationale. Puis qu'est-ce que Juraj Slafkovský nous a montré l'année passée? Il nous a montré qu'il pourrait être un joueur des premiers deux trios pendant 10 ans dans la Ligue nationale, c'est sûr et certain aussi.
Oui.
Mais là, il est complètement en manque de confiance. Puis moi, je comprends pas pourquoi, et là, je vais le défendre. Tu prends un gars qui était repêché premier, qui est en manque de confiance, et que tu jumelles au joueur le moins productif de l'équipe, que sa confiance est encore plus ébranlée que celui-là de Suzuki. Ça fait pas de sens pour moi.
Non, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'impression, Tony, tu sais, quand tu rétrogrades un joueur au quatrième trio, souvent, ça va être des punitions, ça va être une façon de les réveiller, si on peut dire. Tu sais, c'est la vieille méthode. Mais vraiment, est-ce que, comme tu dis, est-ce que c'est comme ça que tu fais reprendre la confiance d'un joueur? Tu sais, tu peux le changer de partenaire, de trio, mais tu le mets pas avec des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup moins de talent parce que la situation peut vraiment empirer. C'est sûr que le Canadien, ça regorge pas de talent. Alors, il n'y a pas 1000 joueurs avec qui il peut jouer.
Non, mais il regorge pas de talent.
Il y a d'autres façons de brasser la cage, non?
Mais il regorge pas de talent. Ils sont bien meilleurs que 13 lancés au but contre Utah. Ils ont même pas un nom. Ils ont même pas un nom. C'est Utah Hockey Club. Ils ont même pas un nom. 4.33 lancés par période. 13 lancés contre Utah.
Et si tu regardes hier, les meilleurs joueurs de Utah ont été meilleurs que les meilleurs joueurs du Canadien.
C'est aucun doute. Puis on n'a même pas parlé du capitaine Suzuki encore. Là. Tu sais que moi, Suzuki, je l'adore. Là. T'sais, je l'adore, Suzuki, je l'adore. Mais Suzuki, là, la moitié des matchs cette année, je suis pas content avec son effort. Son langage corporel, je l'aime pas. Son sens de leadership, je l'aime pas. Son implication, je l'aime pas. Il joue avec un mollesse. À tous les deux matchs, Suzuki se présente pas. Tu peux pas avoir ça de ton capitaine, man. Puis je l'aime. Ouais. Mais il faut dire les vraies choses, là.
Mais Tony, on a souvent parlé de ça, puis on en a parlé dans ton podcast l'année passée. Moi, j'ai toujours dit que les meilleurs joueurs du Canadien, ils s'en viennent. Ils sont pas déjà là. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Suzuki peut pas être ton meilleur attaquant puis espérer de devenir une aspirante à la Coupe Stanley. Je pense que les attentes de bien des gens, puis peut-être les tiennes aussi, sont trop grandes envers un joueur comme ça. La minute qu'il va arriver un gars comme Demidov, puis le premier choix de 2025, puis peut-être, tu sais, là, à ce moment-là, Suzuki, la pression va être moins grande sur lui. Puis, d'après moi, en ayant un rôle peut-être moins crucial au sein de l'équipe, il va être plus relax, il va produire. Puis, je sais pas, on va être moins sur son dos, non?
OK, je te le donne. Mais il faut aussi dire que si Demidov va jouer avec Suzuki un jour, l'ajout de Demidov, Suzuki va beaucoup mieux paraître aussi.
Ben oui.
T'sais, si l'an prochain, le premier trio des Canadiens, là, c'est Suzuki, puis avec Lainé, puis Demidov, là, là, tu vas peut-être dire, ouais, Suzuki, c'est un premier centre.
On verra, Tony.
Là, hier, il y avait Nuuk sur son aile. Là. Arrête, là. Is this a joke or what?
C'est sûr que ça aide pas.
Mais là.
Mais comme je t'ai dit, veut pas, à un moment donné, quand un gars est ton meilleur joueur, il doit être ton meilleur joueur. Il doit agir comme ton meilleur joueur, peu importe avec qui il joue. Tu sais, on a vu ça souvent dans des clubs faibles, au début des clubs en reconstruction, le gars était tout seul. C'est sûr que ça aide pas. Tu sais, si on remonte les plus vieux, là, Joe Sakic est arrivé à 19 ans, 20 ans, à Québec, il était complètement seul. Mais je pense qu'il y a une saison de 100 points là-dedans. Fait que tu sais, puis tu le voyais que c'était le gars. C'est ça, tu sais, Connor Bedard à Chicago, il est tout seul en ce moment.
Ouais.
C'est sûr que c'est plus difficile. Hein, tu le vois. Mais il réussit quand même à faire des jeux. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, le gars qui est supposé être ton meilleur joueur, c'est lui aussi qui est supposé être la locomotive de l'équipe. Mais moi, j'ai toujours cru que Suzuki avait pas, était pas assez bon pour être le meilleur attaquant d'une équipe championne. Là. C'est ça que je dis, moi je le dénigre pas Suzuki,
ouais.
C'est juste qu'il y a une chaise qui lui convient pas à Montréal malheureusement, puis le jour il va avoir une chaise qui convient, ben on va dire, waouh, ouais, Nick Suzuki,
parce qu'ils sont un club sans profondeur, parce que s'ils jouaient sur l'équipe des Bruins de Boston qui ont gagné la Coupe en 2011, là, puis ouais. Lui était là à la place, disons que lui était là à la place de Krejci, ok?
Ouais.
Mais en arrière de lui, il y a Patrice Bergeron. Mm-hmm. Puis sur les ailes, il y a Nathan Horton, puis il y a Michael Ryder, puis il y a Milan Lucic, puis à défense, t'as des Chara, puis t'as des... puis je pouvais, même là, il y avait un Marchand aussi, mais à l'aile. Mais à défense, il y avait un Chara, puis il y avait un Seidenberg, puis t'avais un Tim Thomas dans les buts. T'aimerais beaucoup plus Suzuki dans ce cas-là que maintenant. Mm-hmm. C'est parce qu'il joue dans une équipe qui n'a pas de profondeur, puis il se doit de produire, puis s'il ne produit pas, ils vont pas gagner. Point à la ligne.
Tu sais, l'année passée, les Sharks de San Jose, ils avaient comme premier trio Mikael Granlund, William Eklund puis Fabien Zetterlund. Bon, les trois Lund.
Oui.
C'est un bon trio, là. Tu les regardais aller, c'était bien. Mais, puis moi, Eklund, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
C'était le trio favori de Mats Näslund.
Oui, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, Eklund, c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais William Eklund, dans une équipe des Sharks plus puissante, William Eklund, pour moi, c'est un deuxième trio. Mikael Granlund, c'est un bon joueur, il a un point par match, mais Mikael Granlund, c'est pas un gars que tu mets. Ça peut pas être ton meilleur attaquant. Tu comprends?
Oui, je suis d'accord avec toi.
Je suis un peu un parallèle là, d'équipe faible qui vont avoir des joueurs qui sont pas dans la bonne chaise.
Mais Snake, je disais, les Devils du New Jersey l'an passé, là, t'en souviens-tu, il y a deux ans, il était quoi, dans le premier 8 ou 9 équipes dans la Ligue nationale? Puis l'an passé, là, ils étaient dans les vingtaines. Là, ils n'avaient pas connu une bonne saison l'année passée. Les Devils, ils ont regardé ça durant la saison morte. Puis ils se sont dit, c'est quoi le problème? Puis ils se sont dit, on avait trop de jeunes joueurs à la défense.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés chercher des vétérans à la défense. Le Canadien passe beaucoup de temps dans leur zone. La défense est jeune. Tu sais, hier, on a posé la question à Martin Saint-Louis, là, l'importance de Matheson. Il dit, mais oui, il est important, là, il joue beaucoup. Mais quand Matheson n'est pas là, le Canadien passe beaucoup de temps dans leur zone. Il ne pouvait pas sortir la rondelle de la zone hier. Mm-hmm. Tu sais, tu parles de reconstruction, mais il y a quand même... Si tu dis, on va reconstruire, puis tout le monde va être en développement parfait, mais est-ce que c'est développement parce que tu joues dans la Ligue nationale, mais tu touches rarement à la rondelle? Les Devils, ils donnent du temps à leurs joueurs dans les mineurs, dans la Ligue américaine. Ils ont un mix de vétérans et de jeunes dans l'équipe. Les Canadiens, là, ils ont beaucoup de jeunes à défense, le Snake.
Oui. Tu sais, puis c'est pas tous nécessairement des joueurs hyper talentueux non plus, là. Tu sais, Struble, Barron, c'est pas nécessairement là, des... Jack Eye, c'est pas nécessairement des grands talents à la défense. Alors, tu sais, jeune n'égale pas nécessairement prometteur. Des fois, tu as des jeunes, mais c'est des jeunes qui sont bien ordinaires. C'est pour ça que, je te l'ai dit, tu dois souhaiter des défaites, Tony, pour que Matthew Schaefer soit repêché par le Canadien.
Écoute, hier, je disais avec Maxime Lapierre, je disais, écoute, Max, là, Kirby Doc, là, à date, là, il a convaincu personne qu'il est le deuxième joueur de centre en arrière de Suzuki. Hein? Tu me corrigeras si j'ai tort, là, il a convaincu personne. Je pense pas qu'il a convaincu Gorton ou Hughes ou Saint-Louis ou Tony Marinaro, Snake Boisvert ou tous les autres stars et auditrices qui nous entendent en ce moment. Le Canadien, tôt ou tard, là, ils doivent aller chercher un joueur de centre. Parce que si Kirby Doc ne se replace pas cette saison, j'espère qu'ils ne vont pas prendre la décision dans la saison morte pour dire, mais là, on va lui donner une autre année, puis il va se reprendre, puis on va le mettre avec Demi Dop et Liney. Parce que sinon, là, ça va être une autre saison à poubelle. Là.
Et tant mieux. Gavin McKenna s'en vient.
OK, je comprends, mais...
Non, mais Tony, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas signer des joueurs pour bloquer le chemin des joueurs qui s'en viennent.
Mais là, c'est un bon argument. Oui, ça, c'est bon.
Je ne sais pas si Michael Hage, ça va être un deuxième centre. OK, je ne sais pas encore. Il y a une chance de l'être, mais dans le pire des cas, c'est un super troisième centre, OK? Dans le pire des cas. Mais si tu signes un gars, mettons, 5 ans, exemple, tu signes Sean Monahan, OK? Je te donne un exemple, comme Columbus a fait. Tu signes Sean Monahan 5 ans, tu bloques le chemin d'un gars comme Michael Hage pour se faire valoir et peut-être être ton deuxième centre. Oui, je sais, tu sacrifies des années quand tu fais ça. Je suis très conscient de ça. Mais... le but ultime, il y a 32 équipes, c'est difficile de gagner la Coupe Stanley, c'est difficile de se rendre en finale. Le but ultime, c'est de bâtir un club champion et non pas un club qui va juste être bon, qui va faire les séries, qui va faire une ronde. Puis je pense que c'est ça que le pari que le Canadien, Gorton, Hughes et Molson font en ce moment. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas, il n'y a pas de garantie. Mais moi, j'aime mieux qu'ils prennent ce chemin-là que de prendre le chemin que Marc Bergevin faisait et que Bob Gainey faisait en faisant juste du rapiessage.
Non, mais là, c'est un point intéressant, puis je suis content que tu le mentionnes, parce que si le Canadien va chercher un joueur de centre maintenant et il va aider le club, tu vas rater les séries quand même et tu vas te faire mal ou est-ce que tu vas repêcher?
Oui.
Donc, je pense que cette saison, les Canadiens vont laisser faire les choses. Ça va se faire de façon organique. Ils vont perdre plus souvent qu'autrement. Ils vont être là, peut-être repêchés 5e, 6e. Je ne sais pas. Mais l'an prochain, ils ont une décision à prendre. L'an prochain, l'été prochain, ça va être est-ce qu'il y a assez de talent dans l'organisation pour commencer à essayer de gagner? Ou est-ce que tu forces pas les choses encore? Cette saison, saison, tu forces pas les choses.
Tu les forces pas l'été prochain non plus. Non, tu les forces pas l'été prochain non plus. Tu commences à forcer les choses d'après moi en 2026. Premièrement, en 2025-2026, tu vas voir un peu de quel bois Demidov se chauffe. OK? Tu vas avoir une idée où ça s'en va.
Mm-hmm.
Ensuite, tu as un autre choix très élevé en 2026. Et là, en 2026, là tu as eu ton premier choix de 2025, tu as ton premier choix de 2026, tu as Demidov qui est arrivé, tu as Michael Hage qui va frapper à la porte. Et tu as Rennbacker, on ne sait pas là, qu'est-ce qui va arriver aussi l'an prochain. Alors moi, je dis que c'est à l'été 2026 que le Canadien doit commencer à forcer les choses.
J'ai pas de problème donc, avec la reconstruction. Moi qui ai toujours été pour la reconstruction.
Oui.
Mais je ne pense pas que c'est ça leur idée, par exemple. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient, quand ils ont rentré, là, t'en souviens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gorton puis Hughes. Ils ont dit, on veut essayer. Il y a deux genres de reconstruction, nous ont dit. Il y en a un, et l'autre est de accélérer le processus. Puis quand le Canadien est allé chercher Kirby Dach par échange, puis quand le Canadien sont allés chercher Newhook par échange, c'est parce qu'ils voulaient accélérer le processus. Quand ils sont allés chercher Patrick Laine par échange, c'est oui. parce qu'ils voulaient accélérer le processus. Donc,
non,
moi, j'achète
oui.
tout ce que tu dis. Par contre, non. c'est contrairement à ce que non. les autres ils veulent faire.
Oui et non, Tony. Dach, Newhook étaient des jeunes joueurs qui étaient de l'âge du noyau qu'ils étaient en train de former, ou à peu près. Alors, moi, accélérer une reconstruction, là, pour moi, là, c'est de re-signer Sean Monahan. C'est ça, accélérer une reconstruction. Aller chercher Dach, Newhook, Dach avait 21 ans. Pour moi, ça fait partie de la reconstruction. Bon, Patrick Laine, lui, il reste 2 ans de contrat. Ils ont obtenu un choix de deuxième ronde pour accepter son contrat, en plus. Et, oublie pas, il a juste 26 ans. Alors, lui, dans 2 ans, quand son contrat expire, ou le Canadien l'échange, puis bon, OK, merci, bonjour, ou le Canadien le garde, puis à 28 ans, il peut donner encore un 4-5 bonnes saisons et faire partie du processus. Le problème de certaines équipes, c'est qu'il y a des équipes qui décident d'aller chercher des gars de 28, 29, 30 ans, puis de dire, OK, tu sais, Columbus, l'été d'avant, là, ils vont chercher Severson au New Jersey.
Mm-hmm.
Ils vont chercher, qu'est-ce que ça leur a donné de faire ça? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'accélération des raccourcis stupides. Mais tant que tu vas chercher des jeunes joueurs, ça fait partie de ton processus. Puis n'oublie pas, c'était des gambles. Dach et Newhook, c'était 2 jeunes joueurs sur lesquels les équipes avaient abandonné. Et tu sais, il faut quand même se poser la question, pourquoi Chicago a abandonné Dach? Pourquoi Colorado a abandonné Newhook? Il y avait peut-être des raisons aussi.
Oui, mais
le Canadien fait un gamble.
Mais il y a un problème, par exemple. Quand tu veux essayer de faire reconstruction avec tous les jeunes en même temps, il n'y a aucun vétéran pour montrer le chemin aux jeunes joueurs. Je te donne l'exemple des Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit, là, eux autres, ils avaient une philosophie comme quoi tous les joueurs devaient être un mentor pour un autre joueur. Donc, Zetterberg pour un, puis Datsyuk pour un autre, puis Fedorov pour un autre avant ça, puis Yzerman pour un autre avant ça. Tout le monde avait un mentor. Les Canadiens, ils n'ont pas ça. Maxime Lapierre m'a posé la question hier. Il dit, quand Brendan Gallagher était recruté, t'es allé habiter avec qui? J'ai dit, Josh Georges. Parfait. Josh Georges lui a montré le chemin. C'est qui montre le chemin aux jeunes joueurs des Canadiens? L'an prochain, quand Demidov va venir, là, il va aller habiter avec qui? Gallagher, bon, peut-être, peut lui montrer le chemin. Savoir s'il va être ici, je pense pas qu'il va être ici. S'il est ici, peut-être. Mais à part ça, qui d'autre?
Oui, mais il n'y a pas juste des jeunes joueurs chez le Canadien. Il y en a des vétérans. Tu sais, oublie pas, à l'été prochain, Nick Suzuki va avoir 26 ans. C'est pas un vétéran, ça?
Oui, mais...
Oh non, mais...
Je sais pas si c'est arrivé encore, là.
Oui, puis, tu sais, il y en a quand même des... Tu sais, Jake Evans, Gallagher, c'est pas non plus des jeunesses, là. C'est des gars qui sont là depuis quelques années. Une autre affaire aussi avec ton exemple des Red Wings, Tony, il n'y a pas de plafond salarial dans le temps. Fait que c'est bien facile d'aller chercher un Brett Hall, un Luc Robitaille, puis alors que les Red Wings dépensaient 90 millions par année. Tu sais, ça je pense que les Red Wings, c'était une autre époque. Je comprends ton point, il est valable. Oui, ça prend des vétérans et tout, mais il ne faut pas s'imaginer non plus que le Canadien, c'est pas 20 jeunes joueurs de 19 ans non plus, là. Il y en a des vétérans.
Simon, je sais que le temps file, mais moi, je veux t'entendre sur une chose.
Oui.
Notre patience a toutes des limites dans la vie. Tu sais, il y a tout un point où est-ce qu'on atteint, qu'on fait « OK, là, j'ai atteint mon seuil de patience. » Tu parlais de Dach puis de Newhook tantôt. Bon, Newhook a joué un match correct hier. Dach, c'est encore une fois plus difficile. C'est difficile depuis le début de l'année. Elle va être où ta limite de patience avec des gars comme ça? Parce que je te donne un exemple. Georges a dit cette semaine clairement ici en ondes que lui, il abandonnait dans le cas de Kirby Dach. Moi, je suis pas prêt à abandonner encore. Mais toi, ta ligne de patience, elle va jusque où avec un gars comme ça?
OK, bien, je vais te répondre en deux volets. La première, c'est que premièrement, puis ça revient à notre conversation du début de l'intervention, le jour où Doc et New Hook vont avoir la bonne chaise.
Mais c'est quoi la bonne chaise? Parce qu'on n'est pas capable de le déterminer encore.
New Hook, c'est le joueur de troisième trio. Arrête.
Le troisième trio. Ben oui. Il n'y a pas d'affaire au-dessus d'un troisième trio. Doc, ça va être à déterminer. Ça s'enligne peut-être plus pour le troisième trio, mais en ce moment, c'est encore à déterminer. Le deuxième volet, Doc, s'il ne peut pas
être le deuxième joueur du centre, il est meilleur qu'il s'en débarrasse. Pas besoin de lui sur le troisième trio. Le gars, il n'a aucune lecture du jeu. Il va faire quoi sur le troisième trio?
Ah, ben voilà.
Exactement. Il prend des décisions stupides sur la glace, man.
Ça me fait grimacer, ça.
Mais ça veut dire quoi?
Ça fait mal.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ça veut dire que Doc, c'est peut-être plus un gars de troisième trio. Ça me fait grimacer, ça.
Mais il était même pas bon sur le quatrième.
Non, je te dis pas qu'il mérite d'être sur le deuxième. C'est pas ça que je te dis. Mais l'espérance, là, c'était qu'il soit un bon joueur de deuxième trio.
Oui,
là, on parle d'un troisième.
Oui, je sais, mais l'espérance.
Hey, c'est un échec, là. C'est un échec, ça fait mal.
Il y a Hage qui s'en vient. Il y a un premier choix en 2025 qui va peut-être être un joueur de centre. On verra. Puis il y a un premier choix en 2026 aussi. Moi, je te l'ai dit, c'est l'été 2026. Moi, la prochaine saison et demie, là, ou trois quarts, là, pour moi, c'est flushé. Puis regarde les autres constructions. Anaheim, ça fait 6 ans de suite qu'ils ont des choix top 10. Ils bâtissent ça brique par brique par brique. Pourquoi à Montréal, au bout de 3 ans, faut absolument qu'ils fassent les séries?
Veux-tu que,
C'est quoi cette hystérie collective d'impatience?
Il n'y a pas tard, là. Il n'y a pas tard. Les numéros baissent à TV, malheureusement. Ouais. Les numéros baissent un peu partout. Mais il n'y a pas tard. Mais moi, je veux dire ça. Moi, la construction, là, j'achète. Perdre un autre 1,5-2 ans, j'achète. Donne-moi un spectacle. Tabaslac. Donne-moi un spectacle. Le cadenas, prends le cadenas, là, puis jette-le dans la rivière de St. Lawrence River, là. Donne-moi un spectacle.
Mais moi, ce qui m'énerve avec tout ça, c'est que j'ai l'impression, Simon, qu'il y a 2 ans, on disait, l'été 2024 va être important.
L'été 2026 va être important.
Après ça, on n'a aucune garantie que ça va fonctionner. Puis tu vas me dire, ça va être ça pour n'importe quelle équipe. Mais toute cette patience-là, vas-tu vraiment me mener à quelque chose? Puis on pourra dire la même affaire après l'été 2026. Ben, c'était une mauvaise perception.
Hey, tu sais, c'est qui le disait? Les médias disaient, il faut gagner tout de suite. Veux-tu savoir pourquoi?
Oui, mais c'est qui les médias?
Moi, là, je peux parler du Canadien 12 mois par année quand le Canadien rate les séries 3 ans de suite. Puis you know what? Je suis la preuve, je le fais. Je fais mon podcast 12 mois par année. Je trouve du matériel à tous les jours, du lundi au vendredi, 12 mois par année. Je prends pas 3 mois de vacances, 4 mois de vacances, 5 mois de vacances. Je parle du Canadien 12 mois par année. Mm-hmm. Les médias qui mettent la pression sur le Canadien pour gagner tout de suite, c'est parce qu'ils veulent que le Canadien soit dans une course aux séries ou que les Canadiens font les séries, puis que les Canadiens peuvent jouer aussi longtemps possible pour avoir du matériel, puis ensuite vont aller en vacances. Arrête. Moi, je te dis, j'accepte la reconstruction. Penser qu'une équipe en reconstruction, ils vont être en mesure de gagner 3e année, ça, c'est stupide. OK? It doesn't work that way. Au moins que tu as repêché un Crosby puis un Malkin, comme Simon vient de dire. Mm-hmm. Il a raison, Simon, qu'est-ce qu'il dit. Moi, je vais finir avec ça. J'achète la reconstruction.
Ouais.
J'ai toujours acheté, mais je vais voir la progression et je vais voir un spectacle. C'est-tu OK, ça?
D'accord.
En ce moment, je vois aucun spectacle parce que je vois un maudit cadenas qui se ferme plus souvent qu'autrement et je vois pas de progression. Pas de progression dans les points des joueurs, pas de progression dans le jeu des joueurs. Pas de progression dans rien. On parle de joutes, on parle de touches, on parle de cadenas, on parle de mimi, coco, pipi, papa. Arrête, c'est enough.
C'est bon. Parce que les futurs meilleurs joueurs ne sont pas arrivés encore.
OK. Dans le processus, il y a quoi là? Il y a quoi dans le processus?
Dans le processus, on parle du Rocket à Laval. On fait le bilan du Rocket à date.
OK.
On parle du top 50 des meilleurs joueurs de moins de 24 ans fait par TSN.
Oui.
Et puis, on parle également de la situation des Hurricanes de la Caroline.
OK. Merci beaucoup. On va suivre ça, processus sur YouTube et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Snake.
Très
intéressant, comme d'habitude.